France Inter.
France Inter, le 18-20. Fabienne Sinter.
Un jour dans le monde, ce soir, c'est un jour dans la peau d'une enquêtrice sur les violences sexuelles dans les conflits.
With regard to the 7th of October attacks, we found that there are reasonable grounds to believe that conflict-related sexual violence, including rape and gang rape,
on va y venir. La femme qui parle s'appelle Pramila Patern. Elle est représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit, représentante spéciale des Nations Unies. Elle a fait une visite en Israël, elle a rendu un rapport et on y viendra dans un instant avec vous, Céline Bardet. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste, vous êtes enquêtrice internationale. Votre ONG s'appelle We Are Not Weapons of War. Nous ne sommes pas des armes de guerre et le but, c'est précisément de montrer à quel point la violence sexuelle dans les conflits doit devenir un enjeu mondial. Vous l'avez démontré dans de multiples endroits en Libye, au Rwanda et ailleurs, à quel point le viol était une arme de guerre. Et cela vaut donc aussi pour les attaques du Hamas du 7 octobre sur lesquelles vous travaillez en ce moment. On sait à quel point c'est difficile, à quel point c'est explosif aussi. Ça fait un cocktail très complexe pour essayer de faire tout simplement votre métier. D'abord, Céline Bardet, votre organisation est indépendante. C'est bien ça qui compte, elle est reconnue. C'est pour ça qu'on fait appel à vous ici et là. Là, c'est vous qui vous emparez du sujet. C'est vous qui vous auto-mandatez pour essayer de comprendre. D'abord, pourquoi ? Est-ce que l'idée, c'est de se dire, vu le contexte, il y a que nous qui pouvons dire un certain nombre de choses, en fait ?
Alors déjà, j'ai envie de dire, on s'automandate plus ou moins tout le temps. Ouais. Enfin, on nous sollicite, mais en tant qu'ONG, on décide sur quoi on travaille. On reste dans le cadre de notre mandat. Mais oui, là, la singularité de ce qui s'est passé le 7 octobre, et puis des suites, bien sûr, avec tout ce qui se passe de façon horrible à Gaza, demande, je pense, qu'on travaille là-dessus extrêmement sérieusement. Mmh. Et nous, c'est ce qu'on fait. Et on est l'ONG spécialisée là-dessus.
Alors, vous allez nous expliquer comment vous faites. Il y a eu 1200 victimes, soldats ou civils, le 7 octobre. 382 femmes tuées, apparemment, parce que il faut toujours mettre des guillemets dans les chiffres. On n'a pas une certitude absolue. 84 kidnappés. 15 sont toujours aux mains du Hamas. À quel moment, vous, d'abord, vous vous déplacez en Israël? Et qu'est-ce que vous pouvez encore collecter lorsque vous y déplacez pour la première fois? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Qu'est-ce qui vous aide?
Alors d'abord, moi je m'y suis rendue en début décembre, mais je m'y suis pas rendue dans un cadre d'enquête commencé. Hein. Je m'y suis rendue pour rencontrer les organisations, notamment des femmes qui considéraient qu'elles n'étaient pas entendues. Ensuite, j'ai pu me rendre sur des lieux, le lieu du festival, certains kibboutz, etc. Tout ça se fait évidemment avec l'accompagnement de l'armée. Voilà, et vous disiez à l'instant, voilà, il y a 1200 morts, on ne sait pas combien de femmes. En fait, c'est un peu le problème. Ce week-end, ça va faire 6 mois. Et en fait, moi, je mets quiconque au défi de dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, combien il y a de morts, combien il y a eu de viol, etc. En fait, on ne peut pas. Et c'est pour ça que c'est important de faire absolument ce travail qui n'a pas été fait totalement par les Israéliens.
Est-ce que vous avez réellement les moyens de le faire maintenant, 6 mois après? On voit quand ça se passe bien, et je mets des guillemets parce qu'à chaque fois c'est derrière des horreurs en Ukraine par exemple, après Boutcha, quasi immédiatement, il y a des témoignages, il y a des photos, il y a des enquêteurs des tribunaux spéciaux, des enquêteurs européens, tout le monde est sur place. Là c'est pas le cas, là il n'y a pas d'accès au corps, les corps ont été brûlés, ça a été quand même un moment absolument terrible. Il n'y a pas de témoignages. Sur quoi on travaille? Comment vous faites, Céline Bardet?
Alors, c'est vrai que c'est très singulier, en fait, la question du 7 octobre, parce que pour l'instant, il n'y a pas de survivants ou de survivantes de violences sexuelles du 7 octobre, mais
que l'on sache.
Que l'on sache, voilà. Moi, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas cette information-là. En revanche, il y a une question qui m'a, moi, profondément hantée, qui a été celle de se dire comment on fait pour faire parler les cendres. En fait, comment on fait pour raconter l'histoire d'une femme qui aurait subi des violences sexuelles, aurait subi tout un tas d'exactions et qui est réduite en cendres et il y a rien. Je relève effectivement qu'est-ce qu'on alors et puis pardon, les Israéliens, ils travaillent donc ils ont ouvert une enquête mi-novembre avec une unité qui est extrêmement spécialisée, on parle d'Israël hein, c'est-à-dire avec quand même des compétences largement établies. Donc ils font ce travail. On peut aussi faire ce travail des années et des années après, je l'ai fait sur plein de zones. personnes. Donc c'est pas tant la question de le faire tout de suite, pas tout de suite. Quand on peut le faire tout de suite, bien sûr que c'est mieux.
Il faut des témoignages. Donc pour l'instant, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce que cette commission israélienne dont vous parlez, est-ce que on parlait tout à l'heure de Pramila Patel pour l'ONU par exemple, est-ce qu'il y a des témoignages stricto sensu qui peuvent être une base et qui vous aident à travailler ou pas?
Alors, il y a les témoignages des gens indirects, c'est-à-dire qu'on vu des choses. Il y a la singularité d'Israël, c'est ça. Il y a les vidéos, il y a les auteurs de crimes se sont filmés. On dit Hamas, mais Hamas et autres factions. C'est aussi la question de savoir qui a commis ces crimes exactement. Ouais. Donc, il y a tout ça. Et on ne sait pas aujourd'hui s'il y a des survivants. Il y a la situation des otages, qui est encore aussi quelque chose de particulier. Donc, je pense qu'on pourra parler après. Donc, non, il y a beaucoup de choses à établir et à faire. Donc, on a des éléments, bien sûr.
Le rapport des Nations Unies dont on parlait à l'instant fait 17 pages et il parle, ouvrez les guillemets, de motifs raisonnables de croire que 3 viols ont été commis. Et quand ils disent 3, c'est parce qu'ils ont un motif raisonnable. Là, ouais. Très typiquement pour ces 3-là, c'est vraiment du travail d'enquête, donc on n'extrapole rien. Est-ce que motif raisonnable de croire, c'est une norme juridique, Céline Bardet?
Alors, en fait, c'est pas une norme juridique, là, c'est une sorte de protection. Le bureau de Pramila Patel, avec lequel on travaille très étroitement, et j'étais à New York avec elle il y a à peine un mois, ne fait pas d'enquête. Elle fait ce qu'on appelle une mission d'information. Ils sont partis 2 semaines et demie avec un groupe d'experts, etc. Donc, effectivement, elle prend ce qu'elle peut établir, corroborer, voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas le reste. Et elle, donc, ce rapport, il est important, parce que c'est le premier rapport international. Et il débloque un peu, parce qu'il y a toute la situation de blocage avec l'ONU, entre l'ONU et Israël. Donc, c'est ça aussi le problème du 7 octobre. Donc, il pose des choses importantes, mais elle demande elle-même, il faut une enquête indépendante. Et une enquête, c'est autre chose que 2 semaines et demie à recueillir des témoignages et regarder des vidéos, bien sûr.
Une enquête indépendante, donc ça peut être vous. Comment vous êtes reçue, Céline Bardet, quand vous arrivez en disant « Bonjour, je suis une ONG, j'ai cette reconnaissance, voilà ce que j'ai fait ». Est-ce qu'on vous ouvre les portes ou est-ce que c'est plus compliqué?
Alors, justement, ça aussi, c'est une forme de singularité avec Israël. C'est-à-dire qu'en fait, on a un rapport de confiance, mais de coopération. Et pourquoi? Parce qu'on est un tiers indépendant et que la situation spécifique actuelle liée à Israël et à tout ce
que j'allais dire, si c'est pas quelqu'un d'indépendant, ça marchera jamais.
Voilà. En fait. Ils veulent pas l'ONU. L'ONU a un mécanisme, qui est la commission d'enquête au bureau des droits de l'homme. Ils n'en veulent pas. Ils la considèrent biaisée, etc. Donc, en fait, là, on se retrouve presque, j'ai envie de vous dire, dans une situation favorable que je n'ai pas forcément quand je vais en République démocratique.
Mais est-ce que c'est ça que vous leur dites? En arrivant aux Israéliens, en leur disant « Ayez confiance en moi, parce que le travail que je fournirai moi est un vrai travail indépendant. En gros, sans moi, il n'y aura pas de vérité. » Alors vous, ça peut être d'autres ONG, mais est-ce que c'est comme ça aussi qu'on essaye de travailler dans cette partie-là ?
Non, mais je ne vais pas leur dire « Sans moi, il n'y aura pas de vérité. » En revanche, ce que je leur dis, c'est « Nous, on est là pour vous aider avec cette expertise sur la question des crimes sexuels et on est totalement indépendant. » Mais quand je dis indépendant aussi, ça veut dire on est indépendant aussi des autorités israéliennes. Et c'est un peu le dialogue qu'on a avec eux en ce moment. C'est-à-dire qu'ils coopèrent, mais ils nous laissent faire ce qu'on veut, comme on veut. Ils nous donnent des accès, donc ça, c'est un très bon signe sur ce qu'ils font au niveau de la police. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de le faire. Et il n'y a aucune enquête aujourd'hui en cours encore. Il y a Human Rights Watch qui travaille sur un rapport qui devrait sortir sur le 7 octobre, mais il y a très peu de choses qui sont faites pour l'instant. C'est aussi le problème.
Et est-ce que c'est difficile aussi, y compris pour vous, de vous extraire de tout le reste, en fait? C'est-à-dire tout le contexte, tout ce qui est explosif, tout ce que vous recevez. J'imagine même en sortant de ce studio, dès lors qu'on parle de ce genre de sujet, est-ce qu'on peut s'extraire de ça ou pas? Ou est-ce que là aussi, vous dites, il y a une vraie singularité, ça fait partie des singularités?
Ouais, j'arrête pas de répéter ce mot, mais parce que, en fait, j'en trouve pas d'autres. La singularité aussi, pardon, je reviens sur juste une chose, on est en train de faire une enquête, moi, que j'appelle à l'envers. C'est-à-dire qu'on part des faits, des rapports, des vidéos, etc., pour descendre aux témoignages. Parce qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de témoignages. Aussi parce que ces témoignages, ils ont déjà été ce qu'on appelle dans mon jargon pollués. Parce qu'on est dans quelque chose d'information, de communication, de désinformation, etc., de grand trauma. Oui, bien sûr, c'est difficile. Moi, pour la première fois en 20 ans, j'ai été attaquée, alors que nous, on réagit sur toutes les zones. Et donc, je vois bien qu'il y a quelque chose d'assez inaudible dans cette situation, et que je le rappelle, et j'arrête pas de le répéter, on travaille aussi sur les allégations de violences sexuelles à Gaza. Donc, bien sûr, on travaille sur tout, et que c'est pas parce qu'on travaille sur le 7 octobre qu'on prend pas en considération tout le reste. Mais oui, c'est très difficile. difficile. Le contexte, là, est très difficile.
J'allais vous poser la question de Gaza. Il y a le témoignage dans le New York Times de cette femme. C'est le premier vrai témoignage en grande longueur qui a été otage, qui a été libérée et qui raconte un certain nombre de choses, qui raconte notamment des sévices sexuels. Est-ce que ça, un jour, c'est prouvable réellement? Parce qu'on sait bien, vous êtes juriste, un témoignage n'est pas une preuve. Est-ce que ça, un jour, c'est prouvable? Est-ce que ce qui se passe à Gaza, un jour, peut être puni, même juridiquement?
Bah oui, je pense, j'ose espérer. Après, je ne lis pas dans les boules de cristal. Non. En fait, un témoignage, c'est quand même un élément important. C'est une source primaire. C'est quelqu'un qui vous dit ce qu'elle a vécu, mais il faut arriver à le corroborer. La difficulté aujourd'hui, s'agissant de Gaza, donc de ce qui se passe sur le territoire de Gaza et des otages qui sont sur le territoire de Gaza, c'est qu'on n'y a pas accès. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'y aura pas accès plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le prouver. Je pense qu'on pourra le prouver. La voix de cette femme, elle est importante. Il faut la corroborer, mais elle est importante. Et je pense qu'il y a de plus en plus de choses qui vont se libérer aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a un trauma, mais je pense que c'est difficile d'extérieur de se rendre compte du trauma absolu de l'entièreté de la population israélienne. Donc c'est ça aussi qui doivent surmonter, et c'est pour ça que le fait d'avoir un peu de temps, enfin de le faire un peu après, c'est pas forcément si mauvais, j'ai envie de dire.
J'allais vous demander, ouais, parce qu'il y a des témoignages qui viennent longtemps après, mais parfois des mois après. Qu'est-ce qui se passe quand on est une ONG comme la vôtre? Enfin, est-ce qu'on est capable d'arriver en disant à un moment, peut-être que vous aurez envie de parler, faites-le vers moi. Est-ce que vous avez les moyens de faire ça aujourd'hui dans la société israélienne?
Bien sûr, là c'est déjà ce qu'on fait. On le fait aussi en collaboration avec les... En fait, ce qui se passe aussi, c'est que les Israéliens aujourd'hui, ils n'ont ni confiance dans les Nations Unies, là je parle des citoyens, ni même dans leurs propres institutions. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc encore une fois, le tiers indépendant, il a une valeur. Mais oui, c'est ce qu'on dit, et on laisse. C'est important aussi de laisser l'espace et le temps. Il faut le comprendre, ça. Il faut l'accepter. Et je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui parleront dans 3 ans, on n'en sait rien.
Votre prochain voyage, Céline Bardet, donc le retour en Israël pour essayer d'y retourner sur les lieux, c'est quand?
Alors là, on pense y aller d'ici fin avril, début mai. On va faire un travail très intensif dans les mois qui viennent, parce qu'on voudrait commencer à sortir un rapport public en septembre, assez important. Et aussi, ce travail-là sont des éléments qui sont constitués pour aider le travail de la justice, potentiellement Cour pénale internationale, la compétence universelle. Il y a des procès en cours, des actions en cours. Donc c'est un peu l'idée, l'objectif de ce travail.
Et peut-être un jour des procès en cours. Le lapsus est intéressant. Céline Bardet, merci beaucoup. Vous êtes juriste, ça veut dire que vous êtes optimiste. Vous êtes juriste, vous êtes enquêtrice internationale. Et votre ONG s'appelle We Are Not Weapons of War. Nous ne sommes pas des armes de guerre. Merci mille fois.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Autriche, qui essaye, avec beaucoup de mal d'ailleurs, de régler ses problèmes de féminicide. C'est un peu le carton rouge en Europe en ce moment. Pour aller jusqu'à 19h, Céline Aslot sous les radars.
On part aux États-Unis où les électeurs sont si peu emballés par le duel Trump-Biden que l'un d'eux a changé de nom pour prouver qu'une autre voie était possible.
Le Monde à 18h50, c'est vous, Franck Madbon. Bonsoir, Franck.
Salut Fabienne, bonsoir à tous. L'OTAN aura 75 ans demain et pas sûr que ça se fête.
Ouais. Écoutez, comme ça au moins c'est clair, le cinéma en VO. Corinne Pellissier, bonsoir Corinne.
Bonsoir. Je vous emmène en Turquie dans les années 90. Un film, deux ambiances à la fois, teen movie, portrait social. Ça s'appelle Yurt, c'est un premier film.
On verra si ça se fête. Merci beaucoup, à tout de suite. Le tour du monde et le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par la Louisiane avec Robert Finlay. You Got It sur France Inter. Y'all change, baby. But daddy packing a lot. You got it. And I need it. Been looking for you a long time. Been looking for you. Only thing on my mind. You must be tired of being alone. Your man is gone and he ain't never coming home. You know as well as I do that life must go on. Don't worry about what people say, girl. We gotta be strong. C'est en Autriche que nous emmène le reportage d'Un jour dans le monde ce soir. L'Autriche qui s'interroge ces dernières semaines sur un problème structurel dans le pays et parle vraiment à tout le monde, hein, en Europe et ailleurs, et nous les premiers, les féminicides. Déjà, 7 femmes tuées depuis le début de l'année, dont 5 en une seule journée. C'était fin février à Vienne, ce qui a provoqué une véritable onde de choc. En Autriche, il faut savoir que les femmes, tenez-vous bien, sont davantage victimes de meurtres que les hommes. Et c'est un fait extrêmement rare dans l'Union européenne. Les associations exigent aujourd'hui une politique à la hauteur du problème. Et le reste, c'est Isorias qui raconte.
Son sourire généreux et son regard franc laissent d'emblée deviner une force extraordinaire. Et en effet, Hanife Ada est une survivante. Cette femme d'origine turque est arrivée à l'âge de 5 ans en Autriche. À 14 ans, on a voulu la marier de force à un cousin. Alors pour y échapper, elle s'est mise avec un homme qu'elle venait de rencontrer. Il lui fera vivre un calvaire durant 28 ans à elle et ses 4 enfants.
Cela a commencé dès la première nuit. Je ne savais rien de la sexualité. Il m'a dit qu'il ne me croyait pas, puis il m'a violée, il m'a battue. Il a essayé de me tuer plusieurs fois. Il m'a dit qu'il voulait que mes enfants m'oublient. Mais mes enfants l'ont oublié, lui, ce salaud. Pas les dégâts qu'il a causés, car ça, personne ne peut l'oublier. Je n'oublierai jamais sa phrase, la pire de ma vie, car mon fils et mes filles sont tellement importants pour moi. La plus jeune de mes filles a essuyé mon sang pendant 3 jours. Je peux dire que sans mes enfants, je ne serais plus là.
Aujourd'hui, Hanife touche une pension d'invalidité, car si elle a réussi à quitter cet homme, il reste des dégâts, dit-elle, et pas uniquement physiques. Mais de ses souffrances, elle a fait un combat. Elle a fondé il y a plus de 10 ans l'association Aide-moi ma sœur. Hanife le constate, les femmes victimes de violences qu'il appelle viennent de tous les milieux sociaux et de toutes les cultures.
Je travaille jour et nuit et j'ai déjà pu sauver 963 femmes en 13 ans. Chaque fois que j'ai envie d'arrêter, je repense à leurs histoires et à toutes ces femmes qui ont besoin de moi chaque jour. J'aimerais demander à chacun d'être attentif à ce qui se passe dans son voisinage. Mon père disait que l'Autriche était un pays sûr, mais sa fille a été maltraitée dans ce pays pendant 28 ans.
Ces dernières années, le nombre de féminicides a globalement augmenté en Autriche, selon les ONG. Entre 2010 et 2020, 319 femmes ont été tuées dans le pays. Une étude publiée l'été dernier nous apprend que dans les 3/4 des cas étudiés, l'auteur était le partenaire ou ex-partenaire de la victime et que 47% des auteurs présentaient des troubles psychiques. Si les facteurs pour expliquer les féminicides sont nombreux, il faut aussi, en Autriche, prendre en compte une dimension culturelle et sociétale, selon la chercheuse Birgit Sauer.
Il existe encore aujourd'hui en Autriche l'idée que l'homme doit ramener l'argent à la maison et la femme rester avec les enfants. Il est d'ailleurs très fréquent que les femmes interrompent leur activité professionnelle lorsqu'elles ont des enfants, voire quittent leur travail. Elles se retrouvent ainsi dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur mari. Il faut également dire qu'en Autriche, on parle peu de la famille aux autres. Les conflits doivent être résolus au sein du cercle familial, si tant est qu'ils soient abordés.
Les ONG, elles, en appellent au gouvernement. Pour Julia Broz de l'association Wiener Frauenhäuser, qui accueille et conseille les femmes victimes de violences à Vienne, il faut penser à plus grande échelle et à plus long terme que le pays ne le fait aujourd'hui.
Nous devrions avant tout nous attaquer aux racines et nous demander comment parvenir à éliminer ces schémas de pensée patriarcaux dans notre société. Il est clair que nous avons aussi besoin de plus de formation dans les secteurs de la justice, de la police et de la santé. Et nous aurions également besoin d'une forme d'action coordonnée, car il n'existe pas aujourd'hui de plan d'action national qui coordonne les activités sur l'ensemble du territoire avec un concept sous-jacent.
Les associations ont chiffré à au moins 250 millions d'euros par an, l'effort à consentir.
Isorias pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est maintenant et c'est Céline Aslan. Et première étape, Céline, en Argentine, où la chasse aux gnocchis provoque la colère des fonctionnaires.
Oui, les gnocchis, vous avez bien entendu, hein, en référence à... Oui, voilà, pourquoi pas. Ce plat italien à base de pommes de terre et de sauce tomate, qui est aussi en Argentine le surnom des emplois fictifs dans la fonction publique, car les Argentins ont l'habitude de manger des gnocchis à la fin du mois, lorsqu'ils n'ont plus trop de sous. Et c'est aussi à la fin du mois qu'on voit débarquer au bureau les fonctionnaires venus encaisser leur salaire, même ceux qu'on n'a pas trop vus le reste du temps. Alors la chasse aux gnocchis était donc une promesse promesse de campagne de Javier Milei. Sauf que le président argentin ne fait décidément pas les choses à moitié. Il en profite pour annoncer une coupe massive dans la fonction publique. 24 000 postes supprimés, soit 8% des effectifs. Et ça pourrait n'être que le début. Les fonctionnaires étaient appelés à descendre dans la rue aujourd'hui pour dénoncer ce nouvel exemple de la politique ultralibérale du président argentin.
Et nous sommes maintenant en Ouganda où des militants tentent de faire annuler la loi anti-LGBT. Et
vous venez d'entendre la colère, la déception d'Andrew M. Wenda. C'est un célèbre journaliste ougandais qui est l'une des figures de ce combat mené depuis un an maintenant, depuis que le pays d'Afrique de l'Est a adopté la loi anti-homosexualité 2023, c'est son nom. C'est l'une des plus répressives au monde. Le texte prévoit de lourdes peines de prison pour les personnes ayant des relations homosexuelles ou faisant, je cite, la promotion de l'homosexualité. Andrew M. Wenda et d'autres militants des droits humains avaient déposé un recours devant la Cour constitutionnelle, estimant que cette loi était illégale. Recours rejeté ce matin par les juges qui reconnaissent que certains articles peuvent poser problème et que la loi dans son ensemble peut s'appliquer. Le journaliste annonce que le combat va se poursuivre. Il lance aussi un appel à la communauté internationale qui avait largement condamné cette loi. Amis occidentaux, nous apprécions votre solidarité, mais nous n'avons pas besoin de votre soutien, écrit-il sur le réseau social X. Pas de sanctions ou d'appel au boycott, restez en dehors de ce débat. Sinon, ça donnera l'impression que l'Occident veut imposer ses valeurs à l'Ouganda.
Literally anybody else is running. A man literally named.
Allez, nous sommes aux États-Unis maintenant sur le plateau de la chaîne NBC News.
Et là, c'est l'incrédulité hein, que l'on entend, celle de la présentatrice de la chaîne Info qui s'apprête à interviewer un professeur américain de 35 ans, ancien combattant qui vit au Texas et qui porte un nom assez peu courant, nom de famille Else, prénom Literally Anybody. Si l'on traduit en français, ce monsieur s'appelle donc littéralement n'importe qui d'autre. C'est étonnant, c'est pas très pratique au quotidien. Et pourtant, cet enseignant portait un nom tout à fait normal il y a quelques jours. Il s'appelait Dustin Ibe, mais il a changé très officiellement de patronyme pour dénoncer le duel entre Donald Trump et Joe Biden à la prochaine présidentielle. Alors c'est vrai que cette affiche a des airs de déjà-vu et n'emballe pas beaucoup les Américains. Dustin Ibe, pardon, littéralement n'importe qui d'autre, a donc décidé lui aussi d'entrer en campagne pour montrer qu'une autre voie était possible. Le futur candidat cherche à obtenir les quelques 100 000 signatures nécessaires pour que son étrange patronyme figure en novembre prochain sur les bulletins de vote.
Eh ben, dites-moi, mais c'est vrai qu'on a le droit de changer de nom aux États-Unis comme on veut. Vous vous souvenez de cet épisode de Friends, mais c'est Collector, il y a Corinne Pellissier qui fait oui avec la tête. Princess Consuelo, Banana Hammock.
Phoebe.
Exactement. Allez, Marianne Faithfull et la Working Class Hero, ça date de 79 et c'est une reprise, bien sûr, de la chanson de Lennon.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all till the pain is so big you feel nothing. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. You're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years. We'll be right back.
But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be.
La version de Working Class Hero de Marianne Faithfull sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50. C'est Franck Madvon.
Fabienne Saint-Ès.
The world has changed.
How dare you?
Le 18-20.
Franck, l'OTAN fêtera demain son 75e anniversaire. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres sont réunis en ce moment même à Bruxelles. Et ce soir, vous nous dites pourquoi l'organisation du traité de l'Atlantique Nord célèbre l'événement dans un climat plutôt morose.
Alors c'est vrai, Fabienne, l'OTAN n'est plus en état de mort cérébrale comme le suggérait Emmanuel Macron il y a 5 ans. À l'époque, les États-Unis de Trump venaient de se désengager de Syrie et la Turquie, membre turbulent de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, avait lancé dans la foulée une opération contre ses ennemis kurdes dans le nord syrien. Le paysage géopolitique n'est plus le même aujourd'hui. D'une certaine manière, l'alliance est plus forte que jamais. Elle compte 32 membres après les adhésions récentes de la Finlande et de la Suède. Elle a retrouvé son adversaire historique, la Russie. C'est dans le contexte des débuts de la guerre froide, après le blocus de Berlin, que 12 pays occidentaux avaient signé en avril 49 le traité de l'Atlantique Nord.
Mais au fond, la guerre en Ukraine a renforcé l'OTAN.
Oui, ce conflit lui a redonné sa raison d'être, assurer la sécurité en Europe. L'OTAN a même accueilli au fil du temps des pays de l'ancien bloc soviétique très attachés aujourd'hui à l'Alliance. L'organisation n'envoie pas de troupes en Ukraine, bien sûr, mais elle s'engage sur la durée. Ce matin, à Bruxelles, son secrétaire général Jens Stoltenberg a défendu le projet ambitieux d'une aide militaire à long terme, un fonds de 100 milliards d'euros sur 5 ans. Le sujet sera tranché lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement en juillet à Washington. L'OTAN veut faire barrage à la Russie qui pourrait, qui sait, menacer demain un pays membre. Dans une tribune de leurs ministres respectifs, France, Allemagne et Pologne s'engagent à défendre chaque pouce du territoire de l'Alliance.
Mais l'OTAN reste prisonnière, Franck, de ses contradictions.
C'est sa première faiblesse jamais vraiment surmontée. L'OTAN est une alliance militaire. Elle n'incarne pas une communauté de valeurs. La France ou le Canada ne partagent pas la même vision du monde que la Turquie. Pour citer un exemple, le conflit à Chypre entre Grèce et Turquie, deux États membres, n'a toujours pas d'issue. Entre certains pays, le fossé peut parfois même se creuser. Quel est l'avenir de l'OTAN, son objectif dans les années à venir? Il y a sans doute autant de réponses que de membres de l'Alliance et encore, tout dépend de la couleur des gouvernements en place.
Pardon Franck, un retour de Trump à la Maison-Blanche pourrait en tout cas aussi changer la donne.
Oui, c'est au fond le sujet que chacun a en tête. Le milliardaire s'en est souvent pris au principe même de l'OTAN, l'article 5, qui consacre la solidarité des pays membres si l'un d'eux est attaqué. Donald Trump a redit en février qu'il pourrait ne pas porter secours aux mauvais payeurs. Car l'Alliance repose aussi sur le postulat d'une Amérique gendarme du monde, aujourd'hui remise en question. Les républicains ne le défendent plus et les démocrates s'en détournent. Sans l'engagement indéfectible des États-Unis, l'OTAN perdrait son pilier, elle n'échapperait pas à de nouvelles empoignades budgétaires, alors que seule une vingtaine des 32 membres de l'organisation sont dans les clous des 2% du PIB consacré à la défense. L'Ukraine peut aussi exposer ses fragilités. Au moment où la Russie semble regagner du terrain, l'OTAN, qui cherche un successeur à Stoltenberg, a-t-elle vraiment les moyens de rassurer Kiev? Voilà le type de questions, Fabienne, qui nourrissent l'inquiétude sur la santé de l'Alliance pour ses 75 ans.
Franck Madvon, merci beaucoup. Le mercredi, c'est le ciné en VO, c'est maintenant, et c'est Corinne Pellicier.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, we start.
Et le cinéma en VO, Corinne, qui nous emmène dans la Turquie des années 90 avec le film Yurt, dans lequel on suit le parcours d'un adolescent de 14 ans envoyé de force par son père en pensionnat pour y recevoir un enseignement religieux très strict. C'est une histoire inspirée du parcours de son réalisateur qui s'appelle Nehir Tuna et qui signe ici son premier film.
Voilà, un très beau film en noir et blanc qui nous invite à découvrir le quotidien d'Ahmet, 14 ans, en 1996, moment charnière dans l'histoire de la Turquie, qui connaît alors de grandes tensions entre le système laïque nationaliste en place et le tenant du pouvoir religieux. Des questions qui s'invitent partout dans les foyers, notamment dans celui d'Ahmet, obligé décider de suivre en cachette une éducation coranique le soir à l'initiative de son père et des cours dans une école mixte et laïque en journée. Deux salles, deux ambiances qui vont évidemment conditionner le parcours de notre jeune héros au faux air de Xavier Dolan, tiraillé entre l'envie de faire plaisir à son père, à qui il dédie ce premier film, et les envies de son âge, se faire des copains, tomber amoureux, écouter de la musique, jouir de sa liberté, bref, tout ce qui est interdit dans ce fameux pensionnat très strict, le même qu'avait connu le réalisateur quand il était adolescent. Au moment où il situe l'action de son film, il est un peu plus jeune que le personnage d'Ahmet, mais c'est quand même la même trajectoire et les mêmes souvenirs.
Growing up in Turkey, where there was a huge polarization.
Grandir en Turquie à cette époque, c'était très dur. Il y avait tellement de polarisation. Deux pans entiers de la société qui s'opposaient, se faisaient la guerre et vous laissez seul au milieu avec vos questions. Qui avait tort? Qui avait raison? Tout cela crée aussi beaucoup de culpabilité. Fallait-il pencher pour le laïc, pour le religieux, ou y avait-il une place pour embrasser sa propre voie? C'est une période charnière de notre histoire et qui a eu un impact très fort sur notre société. C'est pour ça que c'est le sujet de mon film, que je replonge avec mon personnage dans mes années d'adolescence. Même si, à l'époque, j'étais un peu plus jeune que lui, c'était intéressant de montrer les questionnements et les slaloms entre ces deux idéologies, tout ce qu'il a fallu effacer et taire pour ne pas attirer l'attention, y compris des copains à l'école. Ce que vous vouliez, c'était juste devenir invisible.
Annie Ertona aura mis beaucoup de temps à faire ce film pour lequel elle a rencontré pas mal d'obstacles, à la fois d'ordre religieux, administratif. Le pensionnat qui avait donné son feu vert, par exemple, pour l'accueillir, a finalement fait machine arrière après avoir lu le script du film, car il était question d'un vol de chaussures. C'est une action impure, qui est considérée comme impure. Mmh. C'est une anecdote, mais ça illustre aussi le fait que 30 ans plus tard, eh bien, le récit d'Annie Ertona reste pertinent.
Et alors justement, tiens, 30 ans plus tard, Corinne, comment est-ce que le réalisateur perçoit le résultat des élections municipales la semaine dernière et la victoire de l'opposition en Turquie?
Plutôt comme un soulagement, la perspective en tout cas d'un retour à davantage de liberté, de sérénité. Un peu ce qu'il imagine à la fin de son film pour le personnage d'Ahmet qui va grandir, choisir sa voie dans un joli passage du noir et blanc à la couleur. Il faudra d'abord pour ça quitter l'internat, le fameux yurt qui donne son nom et sa tonalité très politique à ce film, qui est à la fois un teen movie, un portrait de la société dans les années 90 et une mise en garde sur les dangers de ces institutions qui continuent d'éclore un peu partout dans le pays.
D'un certain côté, ils jouent un rôle important. Sans ces pensionnats, beaucoup de filles et de garçons ne recevraient pas d'éducation et n'auraient pas l'opportunité d'apprendre. Mais le prix à payer est terrible, car ce qu'ils pratiquent n'est rien d'autre que de l'endoctrinement. Ils veulent tout contrôler, votre cœur, votre esprit, et vous inculquer un modèle unique de pensée, leur modèle. Soit vous êtes musulman, soit vous êtes mécréant, soit vous êtes infidèle, soit vous êtes croyant. Il n'y a pas de demi-mesure et il n'y a pas d'espace pour la nuance. Et des millions de gens sont passés par ces formations. Du coup, ce que m'inspire le résultat des élections, c'est l'espoir d'un retour à l'équilibre, après un poids très fort du religieux. Bien sûr, en Turquie, on ne peut jamais rien projeter, mais j'ai le sentiment qu'on va vers une plus grande stabilité, oui, un meilleur équilibre.
Voilà, ça s'appelle Yurt, signé de Nehir Tuna. Corinne, et c'est au cinéma ce mercredi. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h. Et c'est avec Hélène Philly qui est en train d'arriver juste après. Il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir à tous.
Et ce soir, on se demande si on va tous rester assurables.
Bah oui, d'ici à 2050, le coût des dommages liés au réchauffement climatique va bondir de 50%. Est-ce qu'on va rester assurable? Ce n'est pas sûr. En Californie, les sociétés d'assurance ont fui les régions sous la menace de feux de forêt. Sarah, j'habite dans le Tarn, dans une petite ville. Nous avons vécu certes quelques étés de sécheresse, mais rien de grave. Nous avons été étonnés d'être contactés par notre courtier en assurance pour nous annoncer que notre assurance habitation était résiliée par l'assurance elle-même au motif que notre secteur géographique était certainement sensible pour eux. Notre terre est argileuse, mais sans outrance, aucun voisin n'a fait appel à leur assurance pour des fissures.
Voilà, l'eau, les argiles, 01 45 24 7000 pour vos questions, pour vos témoignages. À tout de suite.